France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
À moins que vous n'habitiez à proximité d'une rue, d'un boulevard ou d'un square baptisé en sa mémoire, il y a fort à parier que le nom de Jean Alleman ne vous dise rien. La trajectoire de cet ouvrier communard est pourtant passionnante. En 1983, pour trois volets de son émission « Les Inconnus de l'Histoire », Jean Montalbetti racontait son parcours en compagnie de l'historienne Madeleine Reberioux. Dans le premier épisode, on apprenait comment, d'ouvrier typographe à l'âge de 12 ans, Jean Alleman était devenu l'un des chefs les plus actifs de la rébellion communarde dans le 5e arrondissement de Paris. Il était incarné dans l'émission par Jean Rochefort, qui lisait plusieurs passages de ses mémoires, alors récemment republiés par François Maspero. Les Inconnus de l'Histoire, Jean Alleman, premier volet, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 mars 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rarezza.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Dernier dimanche de mai, comme chaque année depuis 80 ans, Paris vient saluer les héros de la Commune. Pour ce peuple qui monte au mur, le souvenir est un combat. N'est-il pas l'héritier des prolétaires de 71, révoltés contre la trahison de leurs gouvernants et, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, saisissant le pouvoir entre leurs mains calleuses?
Enquête sur le chef communard du 5e arrondissement de Paris, Jean Alleman, par Jean Montalbetti. Médiateur Madeleine Reberioux, vice-président du musée d'Orsay. Consultant Jean Rollin, conservateur au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Dans le rôle de Jean Alleman, Jean Rochefort, avec la voix de Jean Barnet. Réalisation Eliane Millot.
Salut, Commune! Quand tu vins, la France agonisait, trahie, livrée, fondue.
Faisant appel à notre mémoire qui, nous l'espérons, nous demeurera fidèle, nous allons tenter de faire revivre ce passé de lutte et de souffrance. Les trop courts instants de bel enthousiasme et aussi les heures angoissantes de la défaite. Des répressions impitoyables. Nous dirons les crimes des gouvernants de 1870-71, des hommes néfastes qui, par peur de la démocratie qui les avait hissés au pouvoir, la livrèrent à ses ennemis les plus implacables et firent se ruer sur une population qui, si longtemps leur avait accordé confiance, les soudards sanguinaires qu'une suite ininterrompue de défaites avait rendus littéralement enragés. Non contre leurs vainqueurs, mais contre leurs compatriotes républicains. Ces pelés, ces galeux, d'où venait tout le mal?
Madeleine Ribériou, vice-présidente du musée d'Orsay, qui sera à Paris le musée du 19e siècle, spécialiste de l'histoire sociale et politique de la Troisième République, vous avez choisi d'évoquer la figure d'un militant socialiste né sous la monarchie de Juillet en 1843 et mort à 92 ans, un âge très avancé en 1935, c'est-à-dire au fond à la veille de l'arrivée de la gauche au pouvoir avec le Front populaire. Jean Alman, député socialiste, avait sa légende en tant que chef communard du 5e arrondissement pendant la Commune de Paris, mais est-ce qu'il incarnait aussi un courant, est-ce qu'il existait un courant almaniste au sein du mouvement socialiste qu'il est peut-être important aujourd'hui de remettre en lumière?
Il a existé en effet un courant almaniste, et même d'une certaine manière, Alman, fort mal connu jusqu'à aujourd'hui, a été au contraire bien connu à travers ce courant. Il est, pour les gens qui s'intéressent au socialisme français, ou même au socialisme international, le chef, le leader, le responsable du courant almaniste. En réalité, Alman est tout autre chose, et peut-être même, comme l'a montré une historienne anglaise, Sian Reynolds, dans sa thèse, il était moins almaniste que beaucoup d'autres almanistes appartenant à son propre courant. C'est une personnalité tout à fait fascinante, d'abord par la très longue durée de sa vie, tout de même il est né sous la monarchie de Juillet, il a fait son apprentissage d'ouvrier typographe sous l'Empire, communard, militant du livre, militant de la Fédération française des travailleurs du livre, socialiste, adhérent à la SFIO en 1905, en rupture avec la SFIO à la veille de la guerre de 14, adhérent très passagèrement au Parti socialiste national fondé par Gustave Hervé en 1919, voyant arriver le Parti communiste avec sympathie à la fin de 1920, sans y adhérer du tout, et mourant presque centenaire, alors que peu de communards ont vécu si longtemps, surtout peu de communards bagnards, comme il l'avait été pendant de très longues années. Donc rien que cette extraordinaire longévité, tous ces régimes traversés, et finalement une grande unité dans sa personnalité, cela le rend tout à fait passionnant. Je dois dire que l'individu a quelque chose de fascinant, d'abord par son caractère, son tempérament, c'est un endiablé, c'est un énergique, c'est un enragé, comme on aurait dit sous la Révolution française en 1793-94. C'est un passionné républicain. C'est un passionné républicain. Et ce passionné de la République, cet amoureux de la République, c'est aussi un socialiste convaincu, un de ceux à travers lesquels il n'est pas malaisé de démontrer qu'en France, entre socialisme et République, il y a une étroite osmose.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes effroi, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, le voilà, regardez, quand il vient de mort, il bouge, c'est l'envie au combat.
Et sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'envie au combat préparé.
Vous êtes la spécialiste de Jaurès. Est-ce que, d'une certaine façon, dans le mouvement socialiste, on n'a pas privilégié les deux figures de Jaurès et de Jules Guesde au détriment d'autres figures importantes, comme par exemple celle d'Alman?
Oui, mais cela se comprend bien, d'abord parce que, je dirais, la reconnaissance internationale d'hommes comme Jaurès et comme Guesde aussi, est sans commune mesure avec celle d'Alman. Le mouvement almaniste et Alman lui-même sont restés spécifiquement français, d'une certaine manière très étroitement français. Il n'en est pas de même ni de Guesde, disons qu'on peut rattacher au courant de ce qu'on appelait le marxisme orthodoxe dans la Deuxième Internationale, ni de Jaurès, qui siège au Bureau Socialiste International à partir de 1901 et qui, à partir de 1905, travaille à a donné à la France un leadership qui jusque-là appartenait ouvertement à la social-démocratie allemande à l'intérieur de la Deuxième Internationale. Alors, simplement, cette dimension internationale situe les hommes à un autre niveau. D'autre part, Guède a été l'importateur en France du marxisme, ce ne serait pas exact de dire cela, mais de la pédagogie marxiste en direction des militants socialistes.
Un peu comme Heinemann en Angleterre.
Si vous voulez, oui, un peu comme Heinemann en Angleterre. Et d'autre part aussi, la grande œuvre de Jaurès. Enfin, Jaurès est un très grand militant socialiste et aussi un très grand militant ouvrier, mais il est aussi un extraordinaire intellectuel. Donc il y a là des dimensions qui ne sont quand même pas celles d'Allemagne.
Alain Réberiou, Allemagne, est un Pyrénéen originaire d'un village de Haute-Garonne, mais au fond, c'est essentiellement un Parisien, puisqu'il va vivre à Paris à partir de l'âge de 10 ans, quand ses parents viennent s'y installer. Et il va intégrer très rapidement la classe ouvrière, puisqu'il va faire son apprentissage dans le monde ouvrier, je dirais presque dans une corporation qui représente, je ne sais pas si vous accepterez ce mot, un peu l'aristocratie du monde ouvrier, celle des ouvriers typographes.
Oui, moi je pense qu'il faut attacher beaucoup d'importance aux origines familiales d'Allemagne, avant même, je dirais, son arrivée à Paris. Parce que c'est un bourg, c'est un Sauveterre, et en plus il est né dans un petit hameau de Sauveterre où presque tout le monde s'appelle Allemagne. Vous savez, c'est un nom rarissime, Allemagne. Et les gens qui portent ce nom en ce moment dans la région parisienne sont tous originaires de ce village. Et du côté de sa mère comme du côté de son père, on s'appelait Allemagne. Bien, c'est le nom de ce village. Et sa famille c'était des paysans, mais son père est devenu un petit peu commerçant en vin, vous voyez, commençant à s'écarter du village, à circuler un petit peu à travers la France. Et ses parents viennent très tôt à Paris, en réalité. Il a 5-6 ans quand ses parents arrivent à Paris. Et dans le cadre du désastre de la crise économique de 46-48 en France, c'est le moment où la masse rurale afflue sur la capitale. Et ses parents font partie de ce milieu, de ces gens qui arrivent de province et montent sur Paris dans cette condition pour survivre. Et il s'installe dans un milieu de petits négociants, de petits commerçants, de vin et de spiritueux, etc.
Sa mère avait un petit commerce de marchand de vin.
Oui, marchand de vin.
Maître Albert.
C'est ça.
Près de la place Maubert.
Près de la place Maubert, oui. Et en plus, comme beaucoup de gens de ce quartier, elle était logeuse. C'est-à-dire qu'elle louait des chambres aux ouvriers. Elle était logeuse, elle était un petit peu concierge, un petit peu logeuse. C'est un monde, ce monde du 5e arrondissement, où vivent d'une part des ouvriers, d'autre part, ses petites boutiques. Et je dirais qu'il fréquente le monde ouvrier par rupture avec le père. Son père était extrêmement sévère avec lui, ne l'a envoyé en classe qu'à l'âge de 10 ans, exigeant qu'Alman fasse ses courses, lui serve un peu de serviteur. Bon. Et Alman, je crois, raconte dans ses mémoires qu'un jour, fou de colère, il dit à son père: maintenant j'exige d'aller à l'école, je ne veux plus être à ton service. Et son père lui répond furibard: d'accord, mais alors tu seras curé. Aller à l'école, c'était avoir comme perspective de devenir curé. Et Allemagne va 2 ans à l'école et au bout de 2 ans, il quitte la famille paternelle et maternelle. Il s'en va. C'est la rupture vraiment avec le milieu du petit commerçant, de la boutique, et il devient ouvrier.
Alors, il va faire son apprentissage comme ouvrier typographe. À cette époque, donc il a à peu près une douzaine d'années.
Oui.
On est en 1855.
En 55, oui.
Que représente justement la corporation du livre et ce travail, ce monde des ouvriers typographes ?
Il existe des sociétés typographiques, et notamment il en existe une extrêmement active à Paris, qui sont sorties des sociétés de secours mutuels. Et qui, c'est le cas pour la Société typographique de Paris, qui émerge au grand jour en 1843, se sont donnés comme objectif principal, outre toutes les activités de solidarité associées au mutualisme en France, se sont donc donnés aussi comme objectif la reconnaissance du tarif par les patrons. Le fait d'imposer, mais par la négociation, et si nécessaire par d'autres voies, qui peuvent être la grève, mais si possible par la négociation, la reconnaissance de tarifs très précis de salaire au patron. À dire la vérité, ces sociétés typographiques regroupent à ce moment-là essentiellement des compositeurs, la composition se fait encore à la main, et des, ce qu'on appelle les imprimeurs, c'est-à-dire ceux qui manient les presses. Presses à bras, qui sont encore majoritaires au moment, et de très loin au moment où Hahnemann devient apprenti dans le livre, et puis presses mécaniques qui ont été introduites en France à l'extrême fin de la Restauration, au tout début de la monarchie de Juillet, et autour desquelles se sont d'ailleurs organisées les premières révoltes des ouvriers du livre à Paris en tout cas. Et la société typographique va précisément réémerger sous le Second Empire. Je ne dis pas qu'elle avait disparu, elle était restée active, mais elle se manifestait relativement peu, d'autant qu'elle passait à bon droit pour être extrêmement républicaine. Et que donc, elle avait organisé des banquets républicains, qui sont une des gloires de la Fédération du Livre, de 1843 à l'arrivée au pouvoir de l'Empire. Et elle a donc un peu plongé dans une semi-clandestinité pendant le début de l'Empire. On la voit réapparaître à toute force, là, au début des années 1860, et particulièrement à l'occasion de la première grande grève à laquelle Hahnemann a participé, à la grande grève de 1862.
Alors justement, en 1862, il va connaître d'ailleurs pour la première fois la prison à la suite de cette grève, et puis c'est aussi l'époque où il va s'engager comme militant à la Chambre syndicale des ouvriers typographes. Donc on voit Hahnemann déjà engagé dans une lutte militante.
Oui, il a fait peu de prison, hein, il faut dire, parce que ses mémoires sont tout à fait passionnantes, mais il a, comme il est bien naturel, quand on écrit 30 ans après, de temps en temps tendance à surévaluer un tout petit peu son rôle. Il a quand même fait 8 jours de prison, mais il n'est pas passé devant les tribunaux. Il ne fait pas partie des ouvriers du livre qui, pendant la grève de 62, ont été poursuivis. Et donc sont passés devant le tribunal. Le fait qu'il ait été arrêté souligne néanmoins son action, son initiative, et le fait qu'il commençait à être un jeune ouvrier connu, dont l'apprentissage était achevé. Alors, en effet, dans le cadre, il adhérait sans aucun doute à l'organisation du livre dès ce moment-là. Nous n'avons pas gardé son livret de travail, qui est, et il ne nous dit pas lui-même par quelle maison il a passé, il la nomme quelques-unes d'entre elles dans ses mémoires, mais son livret n'a pas été retrouvé. Donc, sous l'Empire, on n'a aucune preuve qu'il ait adhéré à l'AIT, on n'a donc aucune preuve de son adhésion au courant socialiste ouvrier que représente l'AIT dans ces années-là. En revanche, de son adhésion à la Chambre typographique de Paris, oui, il n'y a aucun doute, et même il s'engage très fortement dès le lendemain de la grève de 1862, dans l'organisation d'une caisse de grève, hein, qui à Paris est très active, puisqu'elle arrive, l'organisation arrive à avoir, en rapport avec la société typographique, à avoir des receveurs dans presque toutes les imprimeries de Paris. Et l'objectif, c'est de collecter 0,50 francs par semaine pour une caisse de solidarité qui, dite de prévoyance, mais qui éventuellement peut servir en cas de grève. Et il s'engage aussi, à ce moment-là, dans la défense d'une forme d'organisation du travail des ouvriers du livre qui s'appelle la commandite, et à laquelle il restera fidèle toute sa vie, qu'il essaiera même d'introduire dans la petite imprimerie qu'il dirigera plus tard, lorsqu'il la fondera en 1890. Donc il y sera fidèle comme ouvrier, et il sera fidèle comme patron. La commandite, c'est un mode d'organisation qui consiste à ce que dans l'atelier, le personnage du metteur, ce qu'on appelle le metteur en page en fait, qui est un intermédiaire entre le patron et les ouvriers et qui est traditionnellement désigné par le patron, cesse d'être désigné par le patron et cesse d'exercer un contrôle patronal sur le travail ouvrier. Dans la commandite, le patron admet le fait que les ouvriers du livre s'organisent eux-mêmes, qu'ils élisent eux-mêmes le metteur et que le travail est réparti sur pied d'égalité entre l'ensemble des ouvriers, dont le metteur travaille, disons, comme les autres, et le salaire que chacun touche est le même, c'est-à-dire qu'ils sont tous payés au temps de travail qu'ils ont fait. C'est le salaire au temps de travail et qui supprime toutes les primes que les patrons s'efforçaient d'accorder à ceux qui travaillaient dans un délai plus rapide, par exemple. Et aux yeux des ouvriers du livre, c'est une manière d'affirmer leur républicanisme, c'est une manière d'affirmer la République dans l'atelier.
Il y avait eu le siège. Paris bombardé. Les longs mois de lutte héroïque contre l'envahisseur prussien. L'amour indivisible de la patrie et de la liberté soulevait le peuple de France. Vivre libre ou mourir.
Jean Rollin, vous nous accueillez dans les bâtiments du musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis, qui est situé dans une ancienne abbaye, dans un ancien carmel, et les salles où vous venez de nous faire monter, qui sont consacrées à la Commune de Paris, sont des salles tout à fait surprenantes, puisque au-dessus des panneaux consacrés à la Commune de Paris, il y a des inscriptions. Je vois, par exemple, une inscription « La maison du serviteur de Dieu sera bénie pour l'éternité » et une autre également à l'entrée « Jésus-Christ est un Dieu crucifié et un Dieu crucifiant. Il a été crucifié par ses ennemis et il crucifie ses amis. »
La présence de ces sentences s'explique par le fait, comme vous le disiez à l'instant, que nous sommes dans un ancien monastère de carmélites. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du 25e couvent de carmélites construit en France en 1625, devenu au 18e siècle, en 1770, le lieu de retraite de Madame Louise de France, 8e fille de Louis XV, venue se retirer en ces lieux pour, comme elle disait, rendre le roi tout à Dieu. Lorsque la municipalité eut décidé en 1972 de restaurer ces bâtiments que les carmélites avaient désertés à la fin du XIXe siècle, s'est posé le problème, est-ce que nous allions organiser un musée moderne qui ne tiendrait absolument pas compte de l'histoire du bâtiment, ou bien est-ce que nous considérions que l'histoire du bâtiment, son architecture, était une partie importante du patrimoine de la ville et, je dirais même, de la nation. C'est ce deuxième parti qui a été adopté et nous l'avons donc restauré sans oublier qu'il s'agissait d'un monument religieux, mais sans pour autant décider de refaire un carmel que seuls les carmélites auraient pu décider de faire si elles en avaient eu la possibilité. Donc nous avons fait un musée moderne avec la possibilité offerte aux visiteurs d'une visite d'un parcours à deux niveaux. Premièrement, la découverte du monument et deuxièmement, la découverte des collections du musée qui existaient bien avant le 20 mai 1981 où fut inauguré ce nouveau musée. Il était installé à côté de la basilique de Saint-Denis.
Il y a relativement peu de documents sur la commune qu'on peut voir dans les musées de Paris. Pourquoi le musée historique de la ville de Saint-Denis consacre-t-il plusieurs salles à une exposition sur la commune ?
Nous sommes musée d'art et d'histoire, c'est-à-dire qu'il est dans notre vocation de rappeler l'histoire de la ville de Saint-Denis et l'histoire du pays dans la mesure où nous en avons la possibilité. Or, il se trouve que notre musée possède une collection d'environ 10 000 documents consacrés à la Commune de Paris de 1871. On peut s'interroger sur les raisons qui font que nous ayons un ensemble aussi énorme de documents qui fait du musée l'une des collections les plus importantes du monde sur ce thème. C'est tout simplement que la couleur politique de la municipalité, municipalité communiste depuis très longtemps, après avoir été une municipalité socialiste, a fait que le musée a eu la possibilité de s'enrichir dans ce domaine. Et sans avoir beaucoup de documents à ce sujet, je pense, que les quelques-uns des derniers communards ou de leurs familles ont donné des documents au musée.
Alors, à travers ces salles, nous pouvons suivre un ensemble de panneaux très clairement exposés qui sont des panneaux thématiques consacrés à la fin de l'Empire, consacrés au siège de Paris, à la guerre et aussi aux conditions de vie des Parisiens sous la Commune. Vous avez ici des documents qui nous permettent justement d'évoquer ces difficultés, notamment d'approvisionnement.
Les difficultés d'approvisionnement pendant le siège de Paris était considérable. Et c'est surtout la population ouvrière, la population pauvre qui en souffrait. Parce que pendant le siège, avec de l'argent, on pouvait se procurer n'importe quoi, et même le superflu, de la même façon que pendant l'occupation, il existait un marché noir.
Il y a sur ce panneau un document très intéressant qui comprend à la fois une série de vignettes, de gravures, représentant les petits commerces de Paris pendant le siège de 1870-1871. Et puis, il y a un autre document qui se trouve au milieu, qui donne les prix des principales denrées que l'on pouvait se procurer justement pendant la période du siège.
C'est ça, c'est cela. On constate en regardant ce tableau que le demi-kilo de bœuf coûtait de 3 à 4 francs. Lorsqu'on sait que la solde d'un garde national était de 6 francs par semaine, on se rend compte des difficultés qu'avaient les Parisiens et leurs familles à s'approvisionner.
Alors, sur ces vignettes, on peut voir justement ces difficultés. Par exemple, dans les petits métiers, il y a la vente de boudins, hachis et abats de cheval. Donc, on voit quelle était la qualité de l'alimentation. Les betteraves également, qui se vendent au poids près des ponts de la Seine. Du charbon et des mottes à brûler, surtout, donc difficulté aussi de chauffage. Il y a une cantine municipale, donc il y avait des indigents qui ne pouvaient vivre que sur cette soupe populaire. On voit également des queues devant les boucheries, une très longue queue de gens qui attendent pour se ravitailler.
La vente de petits fagots, les choux et légumes et la queue aux boulangeries. Boucherie de chiens, chats et rats. Et il y a ici une gravure extrêmement amusante, réalisée dans le style de Daumier, et là on reconnaît évidemment son plagiaire, Cham, montrant des bourgeois ou des gens du peuple qui sont à genoux, à la sortie d'une bouche d'égout, en train de guetter le rat qui va sortir afin de lui donner un coup sur la tête et de pouvoir le mettre dans leur casserole.
On a tué à coups de chasse-pont, à coups de mitrailleuse, déroulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant d'un pré, comme on avale les pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé Marlin, Flourens, Duval, Millière, Ferrerico, Tony, Moilin, Gavé, le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui filer la horde. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte.
Il a 27 ans lorsque c'est la période du siège de Paris et il est caporal au 59e bataillon de la garde nationale qui va avoir une importance très grande dans ces journées de mars 81. Et
il s'est engagé dans la garde nationale. Il s'est engagé. Il dit qu'il s'est engagé par patriotisme, peut-être aussi parce qu'il n'y avait plus beaucoup de travail dans la typographie. C'est le cas pour beaucoup de gens qui sont engagés dans la garde nationale pour des raisons diverses.
Donc, ce petit caporal, en fait, va se révéler...
Il n'aurait pas aimé que vous l'appeliez petit caporal. Il détestait les bonapartistes. Et une des raisons pour lesquelles il en voulait tant à son père, c'est que son père était pas seulement boutiquier, mais bonapartiste en plus.
Mais il va se révéler un chef militaire tout à fait extraordinaire.
Oui.
Et très audacieux.
Audacieux, oui, sans aucun doute. Ça, il n'y a aucun doute sur l'audace d'Allemagne. Elle lui vaut une réputation d'énergumène chez ceux qui le critiquent. C'est ce qu'on entendra dire contre lui par les 40 témoins à charge qui viendront déposer contre lui lorsqu'il sera arrêté à la fin de la Commune. Mais il n'y a aucun doute qu'à cette réputation d'énergumène qu'exploitent contre lui ceux qui ne l'aiment pas, répond la réputation de républicain exalté et courageux que formulent ceux qui lui sont attachés. Ce qui est certain, c'est qu'il a été élu délégué de son bataillon aux réunions de la Fédération de la Garde nationale. Il n'a jamais été membre du comité central de la Fédération, hein, mais il a été élu délégué de son bataillon en février 71, après l'armistice. Et c'est comme délégué de son bataillon aux réunions de la Fédération de la Garde nationale qu'il a pu exercer une influence, en même temps qu'il a exercé une influence dans son quartier, dans le quartier du 5e arrondissement, qui était celui du 59e.
Alors c'est là, évidemment, qu'il va exercer son rôle en étant, au fond, le communal le plus actif. Mais alors, cette rupture de février 71,
oui.
Ce début de basculement et vers l'insurrection qui va se produire quelque temps après, en mars, par quoi est-elle causée? Est-ce que c'est le résultat des élections qui ont eu lieu au début février 71 et qui ont été un succès pour les conservateurs? Et dans quel contexte d'opposition entre le gouvernement de défense nationale, le peuple de Paris et la présence des Prussiens qui vont entrer à Paris le 1er mars?
Oui, je crois qu'Allemagne est bien significatif de tout un milieu communard, de gens qui vont s'engager dans la commune. On dit communeux à l'époque, on ne dit pas communard. Donc il est bien significatif d'un milieu communeux pour deux raisons. D'abord, en effet, parce que sa passion pour la République, bien acquise, bien avérée, hein, dès la fin de l'Empire, et même plutôt contribue à le dresser avec une profonde colère contre l'Assemblée qui a été élue et qui siège à Versailles, et qui est une Assemblée en majorité monarchiste, légitimiste, orléaniste, en majorité monarchiste. Bon. D'autre part, son patriotisme avéré aussi le conduit à se dresser contre l'armistice qui vient d'être obtenu. Il est passionnément du côté de Gambetta, qui tente d'organiser, ayant quitté Paris pour Tours, la défense nationale et la défense nationale de la République. C'est quand même le régime républicain qui a été proclamé le 4 septembre 70. Le régime officiel, c'est la République. Et troisièmement, je crois qu'il est aussi très significatif de l'engagement ouvrier dans la Commune de Paris, car il y a dans la Commune beaucoup de gens. Il y a des boutiquiers, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelques intellectuels, mais il y a aussi un très grand nombre d'ouvriers, comme l'ont montré tous les travaux qui ont été conduits sur la Commune, en particulier par Jacques Rougerie et par Jean Métrand, l'auteur du dictionnaire biographique, qui a rédigé la première biographie d'Allemagne, somme toute. Avant même le point de départ de la Commune, il est mêlé à une première affaire des canons, qu'il relate très longuement dans ses mémoires. Il s'agit en effet, vous le savez, de canons qui avaient été payés par souscription organisée dans la Garde nationale. La Garde nationale voulait essayer de les conserver pour s'en servir et asseoir la force de la République dans Paris. Le canon qu'avait payé le 59e bataillon, donc celui d'Allemagne, s'appelait l'Alsace-Lorraine. Il était installé place des Vosges. Et voilà qu'un jour, le bataillon d'Allemagne reçoit l'ordre d'aller récupérer le canon qui est sur la place des Vosges et de l'amener à côté de l'école polytechnique où se trouvait campé le bataillon. Et Allemagne a le sentiment, et il n'est pas le seul, que faire quitter la place des Vosges à ce canon et l'amener dans le 5e arrondissement, c'est une étape pour qu'ensuite le canon soit emmené hors de Paris et mis à la disposition des Versaillais. Et alors, lorsque le canon arrive, Allemagne en appelle à son bataillon, « Ce canon appartient au peuple, je le reprends ». Et une partie de son bataillon le suit, pas tout le bataillon. La majorité du bataillon, y compris les officiers, renoncent à un conflit qui aurait pu être un conflit ouvert à ce moment-là. Effectivement, le canon est ramené par Allemagne et par une partie de ses camarades, Square Monge, puis ensuite Place des Vosges, aux applaudissements des gardes nationaux. C'est un événement, c'est un épisode tout à fait original et intéressant, parce que c'est le même épisode, en somme, qui va se dérouler le 18 mars, au moment du début de la Commune. Mais ce jour-là, l'armée tirera. Et la rupture de la Commune partira donc de cette affaire des canons du 18 mars.
Cette journée du 18 mars est évoquée ici sur un nouveau panneau avec un exemplaire du Cri du peuple de Jules Vallès et puis également des gravures. caricatures en couleur et des gravures sur acier.
C'est cela. Et l'on voit en particulier les canons regroupés à la butte Montmartre. Et ce sont ces canons que le gouvernement de Versailles voulait récupérer de façon à se prémunir contre la volonté du peuple parisien de se battre contre les Prussiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple de Paris était profondément patriote. Il voulait en découdre et il n'acceptait pas du tout la défaite qui avait été consacrée par le fait que Napoléon s'était rendu au roi de Prusse. Alors par conséquent, les Parisiens sont encerclés, ils ne veulent pas lâcher leurs canons qu'ils ont acquis par une souscription. L'un de ces canons a été payé par Victor Hugo avec les droits d'auteur de ses châtiments. Et Victor Hugo, pour cela, est glorifié en première page d'un des journaux de cette période. On le voit à cette cimaise.
Vous avez également, justement, une affiche de cette souscription, qui est une affiche du siècle. « Batterie de canons à la République. Que voulez-vous, tous tant que nous sommes, expulser l'ennemi, sauver et Paris et la France, affermir la République, pour atteindre ce but, que nous faut-il ? Des troupes intrépides, nous les avons. Des cœurs vaillants, nous les avons. Un patriotisme à toute épreuve, nous l'avons. Ce qui nous manque, ce sont des canons. Nous sommes donc dans la nécessité de créer le matériel d'artillerie qui assurera notre victoire. Le gouvernement de la Défense nationale agit de son côté. C'est à nous tous qu'il appartient de le seconder dans l'œuvre difficile qu'il a entreprise. Si nous le voulons fermement, nous aurons l'honneur d'offrir plusieurs batteries à la République. Nous faisons appel à tous, sans exception. Vive la République.
Le soir du 17 mars, un citoyen nous remettait une lettre du comité central nous avisant qu'il n'y avait rien à craindre pour le moment, que le gouvernement hésitait et que nous pouvions prendre un peu de repos. Que du reste, de Montmartre ou de Belleville, un coup de canon avertirait les bataillons fédérés si une attaque quelconque venait à se produire. J'attendis cependant jusqu'à 1 h du matin avant de me retirer, malgré que mes amis m'en eussent prié à diverses reprises. Rien ne survenant, je partis, en leur recommandant de m'avertir si quelque événement important venait à se produire. Les rues étaient désertes. Nul bruit ne troublait le calme de la nuit. Je marchais lentement, faisant effort pour chasser le sommeil qui m'envahissait. Et ce fut au moment même où Vinoy et le comte se disposaient à aller attaquer Montmartre et Belleville que je rentrais chez moi. Vers 5 h, de retentissants appels me font sauter hors du lit et courir à la fenêtre que j'ouvre rapidement. Un certain nombre de citoyens en armes sont dans la rue et me crient de descendre en hâte. M'habiller, saisir mon fusil et descendre mes 3 étages fut l'affaire de quelques minutes. Là, on m'a pris la marche des troupes, l'occupation des quais, celle du Luxembourg, par une brigade tout entière. Et le canon, qui devait nous donner le signal de l'attaque, était demeuré muet. Nous délibérâmes sur le champ. Il fallait tout d'abord changer à nouveau le siège du comité, afin de dérouter la police, ne pas trop s'éloigner du 13e, afin, en cas de nécessité, de pouvoir nous replier vers Duval, qu'il fallait prévenir au plus tôt de la situation et du lieu où s'établirait notre nouvelle permanence. Je proposais de sonner le tocsin pour donner l'alarme à la garde nationale, et je m'engageais à me rendre à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, pendant que d'autres camarades iraient à l'église Saint-Marcel, où nous nous retrouverions, à moins d'empêchement imprévu. Voulant ensuite nous rendre compte de l'état des choses, nous descendîmes, 2 amis et moi, jusqu'au quai Montebello. Le petit pont, le pont au double, le pont de l'archevêché, était occupé militairement. Près de ce dernier pont, des pièces de canon étaient braquées dans la direction de l'hôtel de ville. Comme nous revenions, un général, suivi de son état-major, passa devant nous. Il n'y avait plus à en douter. La République était en péril. Et il fallait agir sans perdre une minute.
Madame Rébériou, le caporal du 59e bataillon de la garde nationale va devenir à 28 ans, le chef le plus actif des insurgés du 5e arrondissement. Entre le Panthéon et le Luxembourg, la place Maubert et la rue Pascal, c'est-à-dire près des Gobelins, est-ce que vous pouvez nous faire le portrait du citoyen Alman qui semble omniprésent là où se dresse une barricade, à la mairie du 5e arrondissement où on administre la vie quotidienne, dans les casernes également où on interroge les agents secrets, ou bien à la permanence du comité de légion qui va diriger?
Oui, il est omniprésent, c'est vrai. Alors, il y a un portrait physique d'Alman, ce qui est lié à son costume, d'abord, pendant ces semaines de la Commune. Il porte en permanence une grande écharpe rouge, il circule avec son fusil de garde nationale, et pendant la semaine sanglante en particulier, ce portrait de lui-même est présenté par presque tous les témoins qui iront témoigner à charge contre lui au moment de son procès. Mais on peut aller au-delà du portrait physique et mettre l'accent, je crois, sur son extraordinaire énergie, sur cette vitalité fantastique que manifeste Alman. Le sommeil, il semble ignorer, toujours sur la brèche, les barricades un peu tard tout de même, car il n'y a pas de barricade au quartier latin avant la semaine sanglante. Hein. Vous savez, pendant de longues semaines, la vie de la commune est une vie paisible. Le danger gronde, mais c'est le printemps, il fait beau. Beaucoup de Parisiens ne croient pas que la commune va se terminer en tragédie. Alors, énergie farouche et énergie qui s'accompagne aussi d'une grande bonté, d'un grand souci d'efficacité, d'un grand souci de servir, d'un grand souci d'aider. Énergie qui s'accompagne aussi de manifestations presque rocambolesques. Il raconte dans ses mémoires comment il est parti pour Versailles avec l'intention d'organiser un coup de force contre l'Assemblée nationale, en accord, semble-t-il, avec un certain nombre de ses camarades typographes.
Alors ça fait partie justement des opérations militaires extraordinairement audacieuse,
ah, tout
des
à
coups
fait,
de main,
oui, tout à
pour
fait
ne pas dire des coups de force qu'il essaie de tenter.
Ah oui, tout à fait.
Il y en
audacieuse.
A un d'abord auprès de l'état-major du régiment qui campe dans le Luxembourg.
Oui.
Il enlève le commandant du régiment et ses proches collaborateurs,
oui,
et l'état-major,
oui,
pour les amener, oui, à la mairie du 5e arrondissement.
Oui, oui.
Il y a cette opération aussi de Versailles où, au fond, il va repérer les lieux à Versailles en se faisant envoyer comme typographe de l'imprimerie nationale pour tenter de préparer une arrivée de la garde nationale dans le château de Versailles et à Versailles. Et il y a d'autres opérations du même type, comme par exemple l'enlèvement du canon de l'école des mines, qui sont également des opérations extraordinairement risquées. Alors, la première impression, c'est que d'abord, ce caporal du 59e bataillon est un chef militaire extrêmement efficace.
Il est certain qu'il est très inquiet de la manière dont la commune conduit sa préparation militaire. Et il considère qu'il y a là une négligence grave de la part de la commune. Je crois qu'il faut donner raison à Alman sur ce point. Bon, et son inquiétude se nourrit précisément de la conviction qu'il a, lui, qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux, qu'on peut organiser davantage et qu'on ne doit pas s'endormir sur les lauriers, que le printemps va s'achever et que la tragédie est possible. Il est de ce point de vue représentatif de ceux des communeux qui ont eu conscience du danger le plus fortement.
Et mener une lutte révolutionnaire beaucoup plus radicale.
Il est, dans ces années-là, relativement proche du courant blanquiste, qui est un des courants dominants de la commune. Donc il est assez associé à ces blanquistes, non pas tant, je crois, pour des raisons d'idéologie, mais est-ce que le blanquisme est un courant idéologique, ça, on pourrait en discuter, surtout parce que les blanquistes représentent les républicains les plus acharnés, les républicains les plus révolutionnaires. Révolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller jusqu'au bout. Être révolutionnaire, cela ne désigne pas tant le régime auquel on aspire, cela c'est la République, et bien des gens sont républicains sans être révolutionnaires, mais être révolutionnaire, c'est être quelque chose en plus. C'est d'être un républicain qui va jusqu'au bout.
Et qui est prêt à mourir, car au fond, cet homme qui a vécu jusqu'à 92 ans est persuadé qu'il va mourir au cours de cette période de la Commune.
Bien sûr, tout au moins il le dit dans ses mémoires.
Et il a un courage physique tout à fait remarquable.
Il est très courageux, oui. Il est très courageux, il est très énergique, il est très valeureux et il est à la disposition de tous. On voit aussi apparaître pendant ces semaines de la Commune des traits du personnage d'Alman qu'on retrouvera plus tard. Par exemple, sa méfiance profonde devant tout ce qui n'est pas, selon lui, l'ordre républicain. Ainsi, il organise de véritables virées dans les hôtels où sont les prostituées. Ils chassent les prostituées, littéralement. Ils virent les prostituées des hôtels où elles étaient installées. Ce sont des gens qui n'ont pas leur place dans la République.
Alors, cette hostilité à la prostitution, est-ce que c'est une politique personnelle d'Allemagne, hein, un refus, une révolte à l'égard de la prostitution, ou bien c'est une orientation politique de la Commune?
Dans tous les cas, ça ne signifie pas qu'Allemagne n'est attentif qu'aux mœurs conjugales. Il a lui-même vécu, il fréquente à la fin de la Commune,
il précisément. Il a une compagne.
Une jeune femme, oui, avec laquelle il n'a pas le temps de se marier, dont il a un enfant, Marie Quesnot. Il va lui adresser de très nombreuses lettres lorsqu'il sera en déportation. Et nous avons gardé un certain nombre de ses lettres. Et il insiste constamment dans ses lettres sur le fait que ses camarades qui n'ont pas été déportés doivent respecter Marie et que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas mariés et qu'elle a eu un enfant de lui qu'elle ne doit pas être respectée. Donc il n'a pas, par rapport au concubinage, si vous voulez, des réactions de répulsion. Mais la prostitution, pour lui, c'est une femme qui vend son corps. Et en plus, il considère que ces femmes sont exploitées. Il n'admet pas qu'une femme puisse vendre son corps et il n'admet pas que des hommes puissent exploiter des femmes vendant leur corps. Et on le voit très bien dans cette virée contre les hôtels où travaillent les prostituées, dont il se vante d'ailleurs dans ses mémoires, à laquelle il fait allusion.
Oui, c'est une opération même d'envergure, car il fait arrêter 400 personnes dans les hôtels meublés du 5e arrondissement.
Ils étaient très nombreux, ces
hôtels. Et pas seulement des femmes, hein. des hommes également, bien entendu.
Oui. C'est une opération d'envergure. Je crois que la Commune aurait été assez d'accord avec cette orientation, enfin, ne la démentait pas, mais Kalman l'a mise en œuvre avec une particulière énergie.
En 2 mois, la Commune fera plus pour le peuple que la 3e République en 70 ans.
Dans la Chambre des députés transformée en atelier, 1500 femmes cousent les sacs de terre qui serviront de rempart aux tranchées.
Dans Paris assiégé, face aux troupes de tiers, la garde nationale va jouer un rôle tout à fait déterminant. Vous avez ici sur ces panneaux un ensemble de costumes des communards pendant ces journées.
Ces illustrations sont en effet extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent le côté très original de l'habillement des défenseurs de Paris. Une certaine fantaisie, certainement, préside à la confection des uniformes. On a connu une période un peu comme celle-là, à la Libération, les anciens s'en souviennent. On s'habillait finalement comme on pouvait. Et les gardes nationaux ou les engagés volontaires, les pupilles de la Commune, par exemple, il y avait, vous savez, des pupilles de la Commune, des jeunes garçons qui avaient 12 ou 14 ans, qui luttaient dans les rangs des communards. Évidemment, ils s'habillaient d'une façon quelquefois peut-être fantaisiste. Mais ils n'en avaient pas pour autant moins de courage.
Je vois là justement un dessin original au crayon, à la mine de plomb, qui pourrait représenter très bien Allemagne. On le voit avec une grande blouse, probablement bleue, une ceinture en étoffe certainement rouge, 2 pistolets passés dans la ceinture, et puis à main droite, il tient un chassepot. Et il porte la barbe et la moustache, et il a un foulard, certainement un foulard rouge, noué autour du cou.
Et il a aussi un sabre.
Et il a un sabre à la main gauche, oui, il est vraiment très équipé.
Il est vraiment armé jusqu'aux dents, ouais. Oui. Et ici, voici un uniforme de la garde nationale, un soldat de la garde nationale, qui est habillé d'une façon tout à fait, je ne voudrais pas dire correcte, mais traditionnelle.
Réglementaire.
Ouais, avec la capote au pan rabattu, appuyé sur son fusil.
Je vois ici une décoration.
C'est un insigne. C'est l'insigne des membres du comité central de la garde nationale. C'est un objet extrêmement rare. Il n'en existe plus que quelques... Il n'est connu qu'à quelques exemplaires. Et on voit le triangle maçonnique avec l'inscription « Liberté, égalité, fraternité ». Au centre de ce triangle, le profil de Cérès, la République. Et sur le ruban rouge, parcouru d'un liseré noir, l'inscription 18 mars 1871.
Dans l'iconographie que vous avez réunie, Jean Rollin, il y a non seulement les gravures ou bien les caricatures, mais également des documents tout à fait originaux, des instantanés de ces journées de la Commune.
C'est cela. Et en particulier, les photographies des barricades de la Commune de Paris qui ont été photographiées le 18 mars par des services officiels.
On voit un mur de pavé, par exemple, qui fait à peu près 2 mètres de haut et qui barre toute la rue de la Paix.
C'est cela.
Ici, une barricade place Vendôme.
Une barricade de la rue Bafroy et
toujours le 18 mars.
Rue de Charonne.
Au faubourg Saint-Antoine, entièrement barrée.
À l'angle de la rue Charonne et une barricade de la chaussée Ménilmontant. Ces défenses avaient été exécutées pour décourager les Prussiens d'entrer dans Paris.
Oui, on voit que la défense, d'ailleurs, est assez importante parce qu'il y a un véritable mur de 3 mètres de haut entre lequel des canons ont été disposés rue de Castiglione.
C'est cela. Et ce sont ces barricades que les Versaillais ont prises ensuite l'une après l'autre, la plupart du temps en les contournant, ce qui était évidemment plus facile que de les affronter. Mais cette défense de Paris, on l'a vu avec l'entrée des Versaillais, était quelque chose de très fragile.
Au peuple de Paris. Une nouvelle révolution pacifique et fière vient de s'accomplir. La garde nationale, atteinte dans sa dignité et provoquée par le gouvernement de messieurs Thiers, Favre et Picard, qui avaient préparé leur tentative par la suppression de 6 journaux, a répondu aux provocations, aux calomnies et aux mensonges par la déchéance et le mépris. La troupe que les généraux de l'Empire avaient menée de défaite en défaite jusqu'à l'humiliation suprême a généreusement refusé de tirer sur les citoyens qui défendaient leurs droits et a fraternisé avec le peuple contre lequel on avait formé le dessein criminel de la faire combattre. Paris s'est reconquis. Il est maintenant libre et souverain, maître de ses destinées et de son avenir. S'il sait prendre aujourd'hui même une résolution énergique et sage à la fois, le triomphe de la République est assuré et la date du 20 mars sera une des plus grandes de l'histoire. Si la population parisienne n'écoutait que ses sentiments d'indignation contre ceux qui viennent de troubler si profondément l'ordre et de menacer la cité des malheurs de la guerre civile, elle proclamerait la déchéance du gouvernement indigne dont les derniers actes mériteraient la mise en accusation et le plus sévère châtiment. Mais si Paris a le droit absolu de disposer de lui-même, il ne peut disposer de la France. Il ne peut faire que ce qu'il a fait, lui donner un grand exemple. Il peut réclamer, conquérir et défendre son autonomie complète, sa liberté entière. Mais il doit, par respect pour la justice, le droit national et pour sa propre sécurité, laisser le reste de la France agir à sa guise. Pour que la révolution qui vient de s'accomplir dans Paris, avec tant de spontanéité, d'ensemble, de magnanimité et d'espérance soit consacrée par le temps, et plus tard, par l'adhésion de tout ce qu'il y a dans le monde d'hommes libres, honnêtes et éclairés, il faut que cette révolution se borne à Paris. Lui seul en a eu le courage et le péril, lui seul doit en bénéficier. Paris doit donc se déclarer ville libre, commune affranchie, cité républicaine, se gouvernant elle-même. Le cri du peuple, 21 mars 1871, Jules Vallès.
Autre trait de caractère d'Allemagne, il semble un remarquable organisateur. Et oui, dans une période où, au contraire, la commune telle qu'il nous l'a décrit semble une ville insurgée, livrée à l'anarchie.
Oui, je pense qu'il exagère quand il décrit la ville de Paris comme livrée à l'anarchie. Il exagère parce que c'est une manière aussi de se mettre en valeur. Il ne faut pas négliger cet aspect-là d'Allemagne. D'autant que ces mémoires sont écrites au tout début du XXe siècle. Et il y a quand même un processus de reconstitution.
30 ans après.
Oui, oui, et puis d'exaltation de son personnage. Néanmoins, chaque fois qu'on a eu la possibilité de vérifier, on a pris Allemagne en défaut parfois, mais rarement. Rarement. Il y a sans doute exagération de son rôle, mais il y a rarement véritablement mensonge ou erreur grave, dans tous les cas. Alors, il exagère, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'organisation dans la commune de Paris. C'est vrai que le 5e arrondissement semble avoir conduit la lutte d'une façon particulièrement aménagée et organisée, y compris lorsque commence la semaine sanglante, y compris lorsque Alman fait construire les barricades et, pied à pied, défend une barricade après l'autre jusqu'à la Seine, levant d'ailleurs les jeunes et les obligeant à se rendre sur les barricades pour y combattre, lors même que ceux-ci n'y sont pas toujours ardemment décidés.
Des enfants de 14-15 ans.
Oui, les enfants de 14-15 ans, oui, mais après tout, ce sont les enfants de 14-15 ans, c'est le personnage de Gavroche, c'est la liberté sur les barricades, vous savez. C'est une grande tradition des révolutions françaises. D'une certaine manière, la Commune est aussi la dernière des révolutions françaises du 19e siècle.
Quelles sont les relations entre ce chef de quartier qui semble entièrement contrôler le terrain dans le 5e arrondissement et l'état-major du comité central à l'hôtel de ville?
Alman n'a jamais siégé ni au comité central de la garde nationale, ni à l'hôtel de ville. Alors, ses relations sont celles d'un délégué d'arrondissement, de la garde nationale, qui est un garant fondamental de la vitalité de la commune, et qui a des pouvoirs dans son arrondissement. C'est essentiellement cet arrondissement qu'il représente, c'est au nom de cet arrondissement qu'il parle, et c'est à ce titre qu'il a les contacts. Alors, ceci étant, ces contacts sont certainement démultipliés par le fait qu'il avait connu, avant la fin de l'Empire, un certain nombre de responsables de la commune, et en particulier de l'écluse. Il a donc des contacts, si vous voulez, dans le personnel qui est élu, qui constitue le conseil municipal de Paris. Il ne faut pas oublier que la commune est quand même une municipalité de Paris élue, élue au suffrage universel. Et il a des contacts dans ce milieu qui sont des contacts sérieux, mais il n'est pas l'agent de la commune de Paris, il est le délégué de la Fédération de la Garde nationale dans son arrondissement. Ceci témoigne d'ailleurs de l'autonomie relative des arrondissements, et cela contribue à souligner la diversité du visage des différents arrondissements de Paris pendant la commune.
Il semble très hostile à un certain nombre de chefs, comme par exemple le général qui a été porté à la tête de la garde nationale, Lullier, qui présente comme un soudard et sur lequel il rejette une grande partie de la responsabilité de l'échec d'une force tout de même considérable qui se trouve à l'intérieur de Paris, qui est une force d'environ 200 000 hommes.
Oui. Oui, c'est un fait que la commune n'a pas su jouer les cartes militaires dont elle disposait de façon sérieuse. Si elle les avait jouées de façon sérieuse, aurait-elle empêché l'écrasement? Ce n'est pas certain. Thiers avait rassemblé autour de lui toute l'armée, non seulement l'armée des nantis, mais l'armée des paysans. L'armée des paysans de province, convaincus que les communeux étaient des partageux, qui voulaient enlever aux paysans la terre que ceux-ci n'avaient pas d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, mais qu'ils souhaitaient avoir. Et il n'est pas certain que Paris, même si le combat avait été organisé d'une façon plus efficace, eût pu l'emporter, même avec le soutien de quelques communes de province, car la capitale n'a quand même pas été complètement isolée.
La commune semble non seulement un conflit de lutte des classes entre la bourgeoisie des nantis, comme vous le disiez, et la classe ouvrière, mais ça semble aussi la grande confrontation entre la France rurale et la capitale.
C'est vrai, pas seulement entre la France rurale et la capitale, mais entre la France rurale et un certain nombre de grandes villes. Il y a eu une commune au Creusot, il n'y a pas duré longtemps, il y a eu une commune à Marseille, il y a eu une commune à Lyon, dans la Fédération des villes du Midi. La commune de Paris a espéré trouver soutien et d'une certaine manière l'a trouvé. Plus encore qu'entre la capitale, les masses rurales, la commune témoigne des tensions entre les villes, entre le monde des villes, la classe ouvrière urbaine, la classe ouvrière des anciens métiers et des nouveaux métiers, la classe ouvrière de la grande industrie, c'est le cas au Creusot en particulier, où Jean-Baptiste Dumay est pendant quelques jours l'animateur d'une commune du Creusot, et puis le monde de la campagne. Et le monde de la campagne qui déjà avait très majoritairement voté Louis-Napoléon Bonaparte à la fin de la Deuxième République et qui est encore derrière, sinon derrière Louis-Napoléon, dans tous les cas contre les formes hardies de République auxquelles au contraire une partie des villes sont extrêmement favorables. C'est pour cela que Gambetta, plus tard, se donnera comme objectif premier de conquérir les campagnes. Conquérir les couches moyennes urbaines à la République et conquérir les campagnes.
C'est ce double antagonisme de classe et également de la campagne contre la ville qu'a su utiliser Thiers, Thiers, dont Marx dit dans Guerre civile en France, précisément sur ces événements de 71, ce nabo monstrueux a tenu sous le charme la bourgeoisie française depuis près d'un demi-siècle parce qu'il est l'expression intellectuelle la plus achevée de sa propre corruption de classe. C'est l'adversaire numéro un, bien entendu, de la Commune.
C'est l'adversaire numéro un de la Commune, mais ce qui est très frappant, lorsqu'Allemagne sera en déportation, nous avons de lui des lettres qui datent de 1873, du lendemain du départ de Thiers. Vous savez que Thiers a été chassé des fonctions qu'il exerçait à la tête de la République avec l'accord de l'Assemblée constituante, élue en février 71. Mais l'Assemblée était en majorité monarchiste et elle est parvenue à mettre Thiers en minorité et a obligé conduire Thiers à quitter le pouvoir en 73. Et à ce moment-là, il y a une lettre d'Allemagne à sa famille dans laquelle il considère que, tout à fait à bon droit, que le départ de Thiers est une catastrophe. Car ce massacreur de la Commune était resté une espèce de garant de la République et donc de la possibilité d'évolution de cette République. Et on comprend à travers cette lettre à quel point Allemagne, cet homme énergique, bon organisateur, fier de lui, mauvais à certains moments même, enfin dans la bataille, et dur, et exalté, républicain, exalté, on comprend combien il est capable de sens politique.
Les canons du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest assourdissent, ces noirs travailleurs de la mort, contre la liberté s'unissent, chef-d'œuvre de l'art qui détruit, chers aux despotes qui commandent.
Canon qui fait autant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
Celui qui vous pointe et celui qui vous sert de cible à distance sont deux peuples fiers aujourd'hui d'être ennemis. Quelle démence! L'arme au pied, le soldat se dit, mais la guerre qui la demande.
Canon qui fait tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
La guerre et la distraction des princes qu'on subit encore. Chacun de dit je suis lion, son peuple est l'agneau qu'il dévore. L'esclave chaque jour s'instruit, c'est ce que le maître appréhende.
Canon qui fait de tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
On vous doit de dignes exploits, par vous la Bastille rasée, et plus tard la Ligue des Rois, vers la frontière est repoussée. Mais un Césarée la surgit, des courtisans revient la bande.
Canon qui fait de tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
La fumée empêche de voir où va tomber l'engin qui tue. Vous obéissez au pouvoir, qu'il soit au trône ou dans la rue. Le droit au silence est réduit, l'idée en est-elle moins grande.
Canon qui fait tant de bruit, taisez vos gueules qu'on s'entende.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur le chef communard du 5e arrondissement de Paris, Jean Allemagne, par Jean Montalbetti, médiateur Madeleine Ribériou, vice-présidente du musée d'Orsay, consultant Jean Rollin, conservateur du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Les textes extraits des mémoires d'un communard de Jean Allemagne, édités par Maspero, ont été interprétés par Jean Rochefort, avec la voix de Jean Barnet dans un article du Cri du Peuple de Jules Vallès. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti, prise de son, Yves Bardet et Daniel Labigne, mixage, Michel Galou, réalisation, Eliane Millot.
Thank you.
Cette émission, premier volet d'une série de trois, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 mars 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. À suivre.